Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique. Regard croisé sur le monde entre un philosophe et un politologue. Michel Terechenko, qui est en duplex depuis les studios de nos confrères de Radio France à Aix-en-Provence, est universitaire et philosophe, auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, L'ère des ténèbres, paru aux éditions du Bord de l'eau. Bonjour.
Bonjour.
Et Bertrand Badi en studio. Et Bertrand Badi est politologue, spécialiste des relations internationales et professeur des universités à Sciences Po, auteur de nombreux ouvrages dont la série sur l'état du monde qu'il co-dirige avec Dominique Vidal, et pour ce qui nous concerne également aujourd'hui, Un monde de souffrance, ambivalence de la mondialisation, paru aux éditions Salvator. Bonjour.
Bonjour.
Entre un monde de souffrance et l'ère des ténèbres, on sent presque davantage de pessimisme chez le philosophe que vous êtes, Michel Terechenko, quant au monde qui nous entoure, là où la mondialisation, lorsqu'elle a débuté, nous laissait entrevoir un monde simplifié, fait de libre circulation des marchandises, des personnes, abaissement des frontières, fin de la longue rivalité entre États-Unis et URSS, on parlait d'interdépendance. Résultat, plus de hiérarchie et d'inégalité. Les affrontements n'ont jamais été aussi violents et la pauvreté n'a jamais atteint un aussi grand nombre de personnes, plus de 2 milliards de pauvres, 30% de la population mondiale, si on prend pour base 2 dollars par jour. Michel Terechenko, qu'est-ce que cela vous inspire ?
Certainement cette vision que l'on avait à la fin de l'Empire soviétique, comme ça, d'une époque qui allait être, le développement comme ça, sans problème, de la société de marché ou de la démocratie de marché, évidemment, ne s'est pas du tout réalisé parce que d'autres interlocuteurs, d'autres acteurs sont entrés sur la scène auxquels on ne s'attendait pas et qui ont totalement bouleversé la donne. Donc, la mondialisation est évidemment un processus compliqué et sur lequel on peut porter un jugement qui n'est évidemment pas univoque.
Alors Bertrand Badi, vous le dites dans votre ouvrage, les questions sociales ne sont pas la priorité, on va le développer, mais surtout vous parlez de trois rendez-vous manqués qui encore aujourd'hui déforment d'une certaine manière notre système international et l'expose aux dangers que vous évoquez. Alors, décolonisation, la mondialisation, on l'a évoqué à l'instant avec Michel Terechenko, et la chute du mur de Berlin en 1989. En quoi ces rendez-vous manqués furent-ils des rendez-vous manqués et quel rapport avec la situation d'aujourd'hui ?
1945, c'est la victoire sur le nazisme et c'est le triomphe de la puissance et des vertus de la puissance. C'est-à-dire que les États-Unis font valoir au monde que c'est grâce à leur puissance que le monde est libéré du monstre du totalitarisme nazi. Donc à l'époque, personne ne met en doute une telle affirmation et chacun, à sa manière, s'en réjouit. Que s'est-il passé depuis ? La décolonisation a montré que la puissance avait quelque chose d'obsolète parce que dans la décolonisation, les puissances classiques ont été vaincues par plus petites qu'elles-mêmes. Mais surtout, s'est construit un nouveau monde. Et ce nouveau monde, nous n'avons pas su du tout l'intégrer dans le système international. Et nous en payons encore le prix aujourd'hui. La mondialisation, c'est mettre fin à notre conception des relations internationales issues de la paix de Westphalie, du congrès de Vienne, du concert européen. L'Europe n'est plus seule dans le monde. Elle ne s'en rend pas véritablement compte ou elle ne sait pas en tirer toutes les conséquences, et surtout la principale de ces conséquences, c'est que la mondialisation, c'est la visibilité, et la visibilité de ce qui est au centre de celle-ci, des inégalités mondiales. Autrefois, les inégalités mondiales, c'est une formule qui n'avait même pas de sens, puisqu'on était entre soi et entre gens d'un niveau de développement économique à peu près équivalent. Et les autres, c'était les terra incognita, les peuples barbares à la lisière du monde civilisé. Aujourd'hui, les inégalités, elles sont au centre du monde. Et on ne sait pas les gérer, comme vous dites, on les tient pour secondaires. Et la bipolarité, elle avait fonctionné tel un frigidaire, nous dit Pierre Asner à juste titre, c'est-à-dire retenait cet ancien monde, le pérennisait au-delà du raisonnable même. Une fois que le mur est tombé, non seulement on n'a pas su en profiter pour construire un nouvel ordre mondial, faut être sévère avec les présidences Clinton, qui de ce point de vue-là n'ont pas su saisir l'occasion de créer un nouveau monde, mais pire que ça, on a abandonné le politique au profit des affirmations identitaires et culturelles, croyant servir la messe de je ne sais quel choc de civilisation, Et du coup, au lieu d'aborder la solution de ces grands problèmes liés à la mondialisation, on les a bloqués à travers ces étiquettes identitaires dont nous souffrons aujourd'hui. Donc, la copie est vraiment très mauvaise, comme on dirait dans mon métier. C'est-à-dire que on n'a pas compris le sujet, on ne l'a pas traité, on l'a traité à rebours, et ben, pour ça qu'on en est là aujourd'hui.
Michel Tereschenko.
Écoutez, oui, le fait que les promesses n'aient pas été tenues, les espoirs n'aient pas été réalisés, il y a tant de raisons, d'une certaine manière, de porter un regard sur la façon dont les États ont su affronter ou n'ont pas su affronter les problèmes nouveaux, et en particulier toutes les pathologies sociales dans un certain nombre de pays dont nous voyons aujourd'hui en effet les conséquences en matière de terrorisme en particulier. Je crois que la grande question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir quels sont les acteurs ou à quel niveau, quels seraient les acteurs et à quel niveau est-ce que l'on pourrait commencer de résoudre les problèmes qui sont devenus des problèmes communs. Et je crois que c'est ça dont nous n'avons pas véritablement encore pris conscience et qui fait que la situation actuelle, en particulier donc aussi bien dans le domaine des relations internationales, mais aussi du point de vue écologique, etc., constitue, je crois, au fond, une situation de crise. Et alors, les crises, c'est toujours pareil. Ou bien elles conduisent à des conflagrations dévastatrices, ou alors elles sont des opportunités pour trouver des solutions nouvelles. Et nous sommes un peu à la croisée des chemins entre des solutions et des modalités de résolution des conflits qui ont montré en réalité leur échec, et la nécessité de trouver d'autres modalités de régulation qui ne peuvent, à mon sens, et je crois que de ce point de vue-là, Bertrand Badie est plutôt d'accord, qu'au niveau de la communauté mondiale, et les États-nations ne sont probablement plus les acteurs efficaces, enfin légitimes même, pour résoudre ces problèmes, même si c'est encore eux, et on le voit aujourd'hui en Syrie, qui se présentent comme étant les seuls interlocuteurs, avec une certaine forme à la fois d'inefficacité, peut-être même d'arrogance, qui est, je crois, à déplorer. Enfin, il y aurait beaucoup à dire sur cette question des États-nations et aujourd'hui et de leurs pratiques.
Alors, sur la question des États-nations, je me tourne vers vous, Bertrand Badie. L'ONU, on célèbre cette année le 70e anniversaire de l'organisation. Une organisation que vous savez critiquer, par ailleurs. Mais là, dans votre ouvrage, vous revenez sur la création, en 1965, du Programme des Nations Unies pour le Développement, le PNUD, dans lequel ont été intégrées des considérations sociales globales dans l'analyse de la situation internationale. C'est une première. Et d'une certaine manière, donc, hommage à l'ONU que vous rendez, et en même temps, on est resté au milieu du gué.
Ah, c'est plus qu'un hommage. C'est la reconnaissance d'une nécessité. La mondialisation et, d'une façon plus générale, tout ce qui s'est produit depuis 1945, incite à placer au centre des relations internationales deux éléments que l'on a du mal à digérer. C'est d'abord l'interdépendance. Michel Tereschenko, il y a un moment, parlait effectivement de cette situation de refus de voir les enjeux communs, les biens communs. Et c'est pourtant ça qui est au centre de l'agenda, donc l'interdépendance. Et d'autre part, le poids très fort des sociétés. Regardez les guerres aujourd'hui, elles sont portées par les sociétés beaucoup plus que par les États. Regardez les échanges internationaux, ils sont portés beaucoup plus par les sociétés que par les États. Regardez les pathologies, les souffrances, les humiliations, ça se passe dans les sociétés beaucoup plus que dans les États. Et donc, la grande question, c'est comment réguler un monde en introduisant ce principe d'interdépendance et en introduisant cette place, en donnant cette place essentielle aux sociétés. Alors, il n'y a que le multilatéralisme qui peut faire ça. Et quand on parle de l'ONU, parce que vous dites on la critique, mais pourtant on l'aime bien, etc. Non, c'est pas tellement cela. Je crois que l'ONU, c'est deux choses. C'est l'accord de volonté politique entre États membres des Nations Unies, et cet accord est absolument fondamental quand il s'agit de la sécurité, puisque ça passe par un Conseil de sécurité qui donne un droit de veto à 5 puissances simplement parce qu'elles sont réputées puissantes. Ça, c'est le côté interétatisme de l'ONU. Et puis l'ONU, c'est aussi une organisation, des fonctionnaires, des services auxquels il faut rendre hommage. Je sais que quand je travaillais par exemple sur les migrations, j'ai été frappé de voir l'extraordinaire compétence des personnes qui, très modestement aux Nations Unies, travaillent sur ces questions de population, sur ces questions de migration, sur ces questions de développement. Il faut rendre hommage au PNUD, au Programme des Nations Unies pour le Développement, qui fait un travail absolument extraordinaire au-delà, cette fois-ci, des États. Alors, ce que je dis, c'est que si on veut viser juste, il faut s'appuyer sur ce deuxième volet du multilatéralisme, là où les États ne font pas la pluie et le beau temps, donner plus d'autorité à ces agences, à ces acteurs et introduire le plus de social possible dans ces agences. Parce que, et ça c'était une intuition merveilleuse de Kofi Annan, qui a été un très grand secrétaire général des Nations Unies, qui expliquait que véritablement le multilatéralisme ne pouvait fonctionner que s'il était ouvert. Ouvert à quoi ? Ouvert aux sociétés. Et ce merveilleux discours de Kofi Annan pour le millénaire, prononcé en 2000, « Nous, peuple, pas État, peuple des Nations Unies », eh bien, si on veut s'attaquer aux ténèbres et à la souffrance, il faut repasser et par les peuples et les sociétés, et d'autre part, par cette partie de la substance onusienne qui est émancipée de la puissance des États. Les fonctionnaires du PNUD qui sur le terrain font un travail considérable et très courageux, ils sont émancipés de la tutelle des États. Quelquefois, ils sont contrariés par les États, mais enfin, ils existent indépendamment. Le Conseil de sécurité, lui, n'a pas d'existence en dehors des États. Il faut comprendre cette dualité pour aimer la partie bonne du multilatéralisme, et la partie bonne du multilatéralisme, c'est ça, c'est des hommes, des femmes, des institutions qui se dévouent pour promouvoir un bien commun sans se préoccuper de savoir si c'est conforme à l'intérêt stratégique de la Russie, des États-Unis, de la France, de la Chine ou de la Grande-Bretagne.
Parce que lorsque vous dites, Bertrand Badi, qu'il faut donner plus d'autorité aux agences, vous parlez d'un monde bloqué, l'ONU, d'une certaine manière, c'est également bloqué.
Mais ce sont les États qui bloque l'ONU. Je vais vous donner de cela. Elle est très éloquente. Les questions sociales, c'est-à-dire les questions d'alimentation, de santé, d'environnement, ne sont pratiquement jamais discutées aux Nations Unies. Un peu maintenant les questions d'environnement. Mais prenez les questions sanitaires. Les questions sanitaires, qui sont quand même fondamentales pour la survie de l'humanité. Eh bien, le Conseil de sécurité des Nations Unies ne s'est saisi des questions sanitaires que deux fois dans son histoire. Une fois pour voir comment protéger les casques bleus, les soldats onusiens du risque de contamination du sida. C'est peut-être pas quand même la grande porte pour entrer dans le sujet. Et une deuxième fois pour faire le bilan de la gestion de l'épidémie Ebola. Mmh. Pourquoi ? Parce que Ebola, ça peut sortir d'Afrique, entrer en Europe et en Amérique du Nord, donc il vaut mieux s'en occuper. Bon, jamais le Conseil de sécurité n'a débattu des questions d'alimentation. Et pourtant, il y a 6 millions de morts par an par défaut de nourriture. 6 millions de morts. Le terrorisme, c'est une goutte d'eau dérisoire face aux ravages que crée la faim dans le monde. Eh bien, il n'y a pas un chef d'État qui se déplace quand il y a un sommet de la FAO. Il n'y a pas un débat sérieux au Conseil de sécurité sur les questions d'insécurité alimentaire. Regardez maintenant la carte de l'insécurité alimentaire. Comparez-la avec la carte des conflits dans le monde. Et vous verrez qu'il y a presque parfaite superposition des deux. C'est quand même bien la preuve que cette crise humaine, cette crise sociale, est aujourd'hui porteuse de guerre infiniment plus que les missiles ou les rapports stratégiques entre États et entre puissances.
Michel Terjenko.
Je ne peux que tout à fait souscrire à cette analyse. Il faut évidemment déplacer, je pense, le regard et voir quels sont les véritables problèmes fondamentaux, quels sont les facteurs de crise, quelles sont les modalités en effet de résolution. Et encore une fois, de savoir à quel niveau est-ce que ces problèmes peuvent être résolus. Moi, ce qui me frappe, c'est que finalement, nous avons, du fait de la mondialisation, quand même des dynamiques d'interdépendance, ce que Bertrand Badi appelle l'interdépendance, qui lie au fond les peuples entre eux, et en même temps un retour des, ou en tout cas une subsistance des logiques hégémoniques de puissance. Alors on le voit effectivement au Proche-Orient aujourd'hui, on le voit en Syrie, etc. Et ce sont des dynamiques en réalité qui s'opposent. L'une des dynamiques étatiques et l'autre des dynamiques qui lient les peuples entre eux, etc. Et on n'est pas du tout sorti de cette situation de conflit.
Vous écoutez Géopolitique.
Bertrand Badi.
Oui, je crois que on est au centre du sujet. C'est-à-dire, on est au temps des nouvelles guerres. La guerre, qui est quand même le paroxysme des relations internationales, c'était autrefois une compétition de puissance. Aujourd'hui, au risque de simplifier, mais très peu, la guerre est devenue une compétition de faiblesse. C'est-à-dire, la guerre se propage là où les institutions politiques sont faibles, là où l'État n'existe pas, là où la sécurité humaine n'est pas assurée. Écoutez, vous êtes un jeune Nigérien, vous avez 20 ans, vous appartenez à cette tranche d'âge qui va de 0 à 30 ans, qui représente 70% de la population. Vous n'avez aucun espoir d'emploi. Comment gérez-vous votre avenir ? Vous avez deux options. Soit vous migrez, ce qui, à mon avis, est la meilleure des options. soit vous vous engagez comme enfant soldat dans des milices au sein de sociétés guerrières avoisinantes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous atteignons un paradoxe que ne voient pas nos bons dirigeants, nos bons princes. Et ce paradoxe, c'est que finalement, un certain nombre de pays membres officiellement de l'Organisation des Nations Unies n'existent que comme sociétés guerrières. Ce sont des pays où on est dans la guerre et on meurt dans la guerre. Ce sont des pays où l'économie est portée par la guerre. Et ce sont des pays où la protection sociale est portée par la guerre. Et ne parlons pas des structures d'autorité politique. On voit se développer, proliférer ces sociétés guerrières, qui sont l'expression violente des souffrances dont nous parlons, et ces sociétés guerrières qui ont été 4-5 au tournant du 21e siècle, au début du 21e siècle, on en compte 20-25, Yémen, Afghanistan, Syrie, Irak aujourd'hui, Libye, Somalie, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Mali, on pourrait continuer ainsi. Alors, la question qui se pose, en principe, quand on est un responsable politique, on doit se poser ce genre de questions. C'est que se passe-t-il si on continue sur cette pente? Bien, si on continue sur cette pente, en 2050, la moitié de l'humanité n'aura pour survivre que l'option de s'ériger en société guerrière. Ça veut dire que la moitié des États membres des Nations Unies seront en situation de guerre endémique dans le monde. C'est ça qu'on veut. Et on a tort, nous, ici en Europe ou en Amérique du Nord, de nous rassurer en disant, bon, ça, c'est ce que vous voulez, ces gens, ils sont pas évolués, ils sont pas civilisés, donc effectivement, ils jouent de la force. Non, parce que nous sommes dans la mondialisation, les imaginaires se mondialisent, et les imaginaires de ceux qui participent à des sociétés guerrières n'ont plus de frontières. Et vous voyez des phénomènes qui étonnent, mais moi qui ne m'étonne pas du tout, comme par exemple le djihadisme, qui vient frapper une partie de notre jeunesse en France. Alors pas seulement ceux qui sont issus de l'immigration, ça on arrive à expliquer ça par des raisons culturelles, diraient certains, ce qui est absurde, mais enfin, du coup ça n'éveille pas tellement l'attention. Mais alors, le bon breton, breton par père, grand-père, arrière-grand-père, aïeul, bisaïeul, trisaïeul, qui tout d'un coup transforme son nom en Mohamed Al-Fanchizi et par faire le djihad en Irak, on ne comprend pas. Bah, si on fait un peu plus attention, on comprendra. C'est-à-dire que maintenant, ce défaut d'intégration sociale se traduit par ces réactions violentes qui sont des réactions mondialisées, en même temps mondialisées. C'est-à-dire l'imaginaire d'un Syrien djihadiste ou l'imaginaire d'un Palestinien devient l'imaginaire naturel de quelqu'un qui, dans notre société, où il y a aussi de la souffrance et de la souffrance ghettoïsée, ne trouve pas la réalisation qu'il attend pour construire sa vie et construire son bonheur.
Alors, défaut d'intégration ou exclusion, le temps tourne, mais je voudrais rebondir sur ce que vous disiez à l'instant, Bertrand Badi, en particulier la notion des migrations. Est-ce que ces migrations que connaît l'Europe aujourd'hui ne va pas avoir un effet révélateur, mais plus que cela, de prise de conscience? Et la question qui me vient, je vous la pose rapidement, Michel Tereschenko, pour une réponse ensuite peut-être en deuxième partie d'émission plus développée. Est-ce qu'on doit parler d'aveuglement ou de phénomène de banalisation? Et finalement, pourquoi nos sociétés restent-elles aveugles?
Oh, c'est une question compliquée à laquelle il y aurait certainement beaucoup de facteurs pour y répondre. Un aveuglement qui tient à une manière d'envisager les problèmes de façon, à mon avis, tout à fait obsolète. En effet, de ne pas considérer l'aspect proprement social et les pathologies sociales à toutes ces crises auxquelles nous assistons. Songeons tout de même que la guerre contre le terrorisme a coûté à peu près 4 trilliards de dollars depuis 2001. Imaginez un peu quelle aurait été une meilleure application de cet argent à des fins de développement et non pas à des fins strictement militaires, avec les résultats pour le moins discutables auxquels on assiste aujourd'hui. Mais l'aveuglement, c'est pas simplement l'aveuglement des politiques qui manque d'une véritable intelligence de la situation et à mon sens d'une espèce de discernement et de clairvoyance.
On reviendra, Michel Tereschenko, si vous le voulez bien, sur la notion bien évidemment d'aveuglement que vous avez commencé de compléter dans la deuxième partie de l'émission Géopolitique. Nous retrouvons nos invités Michel Tereschenko et Bertrand Badi dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard croisé sur le monde entre un philosophe et un politologue. Nous retrouvons Michel Tereschenko qui est en duplex depuis les studios de nos confrères de Radio France à Aix-en-Provence, universitaire et philosophe, auteur de plusieurs ouvrages dont le dernier, L'ère des ténèbres, paru aux éditions du Bord de l'eau, et Bertrand Badi, politologue, spécialiste des relations internationales et professeur des universités à Sciences Po Paris, auteur de nombreux ouvrages également, dont le dernier, Un monde de souffrance, ambivalence de la mondialisation, paru aux éditions Salvatore. Michel Tereschenko, nous évoquions dans la première partie de l'émission l'implacable catalogue des situations qu'on ne veut pas voir, sur lesquelles on n'anticipe pas, liste qui malheureusement n'a de cesse de s'allonger. Quelles sont finalement les causes des aveuglements de notre siècle? Est-ce qu'on peut parler d'aveuglement ou plutôt de notre capacité à banaliser les événements?
Je crois qu'il y a quand même une certaine forme d'aveuglement qui tient au fait qu'on envisage les problèmes à partir des prismes qui laissent de côté probablement les facteurs principaux. Si l'on comprend un certain nombre de crises comme effectivement le terrorisme lié profondément et fondamentalement à des pathologies sociales, on ne peut pas l'envisager simplement, effectivement, encore une fois, de façon purement militaire, trouver des solutions purement militaires, etc. Donc en fait, c'est nos capacités, les prismes à partir desquels on essaie de comprendre les phénomènes sociaux qui sont, tout à fait faux et qui nous empêche de voir la réalité, de comprendre les causes en profondeur, si tant est qu'on ait un véritable désir de comprendre les causes en profondeur, dont la longue durée. Remarquez que l'on est en permanence, si vous voulez, pris dans le présent, dans l'actualité du présent, dans les faits, et tout le monde court après les faits, comme une sorte de satire après la nymphe. Enfin, il y a une obsession des faits au détriment d'une réflexion profonde sur la longue durée qui essaierait de comprendre, enfin, la complexité de ces phénomènes et de trouver des solutions qui seraient des solutions adaptées. Et dès lors, effectivement, qu'on laisse totalement de côté ce qui relève du social, ou qu'on laisse le social aux mains, précisément, éventuellement de ces groupes terroristes, enfin, ou en tout cas dénommés tels, et qui exercent en partie cette fonction étatique manquante, alors en réalité, on est effectivement dans une situation d'aveuglement, où les réponses sont inappropriées et probablement inefficaces, parce que l'intelligence de la situation, dans sa complexité, et effectivement de ses facteurs sociaux, facteurs historiques également, cette intelligence fait défaut, je crois profondément ça, oui.
Bertrand Badi, nous manquons de désir de comprendre. Est-ce que nous ne manquons pas aussi de courage devant les tragédies ou les convulsions en cours?
Oui, et puis il y a surtout quelque chose de beaucoup plus simple. Nous sommes le résultat d'une éducation opérée sur 5 siècles qui portait l'idée que les relations internationales, c'était les relations entre États, et que les questions sociales n'avaient absolument rien à voir avec la relation internationale, n'avaient absolument rien à voir avec la diplomatie, n'avaient absolument rien à voir avec le stratégique. Même encore au XIXe siècle, même avec la Première et la Seconde Guerre mondiale, dans ce contexte-là, la question sociale internationale était totalement secondaire. Elle a commencé à germer, ou à peine germer, au lendemain de la Première Guerre mondiale, avec la création du Bureau international du travail. On a commencé à internationaliser les questions sociales, mais c'était extrêmement marginal. Et donc, il ne faut pas non plus tomber dans la culpabilisation trop directe et trop forte. Nos dirigeants politiques ont appris fondamentalement que les questions internationales, c'était des questions diplomatico-militaires et que le social n'avait rien à voir là-dedans. Le social a été découvert tardivement dans le processus de construction nationale à la fin du 19e siècle, mais il a été découvert quand même. Pourquoi ? Parce qu'on avait peur de ces classes dangereuses que constituait ce mouvement ouvrier, résultant lui-même de l'industrialisation de la société. On s'est dit, mais attention, si on ne fait pas attention à ces classes dangereuses, elles vont faire la révolution, elles vont tout casser, elles vont détruire nos richesses. Bon, au niveau international, ce réflexe vient à peine et différé, parce qu'on se dit, mais ça n'a rien à voir avec l'international. Ça, c'est des questions intérieures. Nous n'avons pas à nous mêler de la question sociale au Niger ou en République centrafricaine. Ou alors, si on le fait, on le fera sur le mode caritatif. D'où, effectivement, cette première vague bien timide qui a été portée, et d'ailleurs très honorablement portée, par certaines ONG qui ont fait un travail, qui font encore un travail courageux. Mais
les diplomates, mais les politiques, mais les hommes d'État considèrent que ça, ce ne sont pas des choses à discuter. Regardez les sommets du G8. Dans les communiqués trompeurs et cosmétiques, on a l'impression que certaines questions, comme le développement, sont abordées. Mais si vous regardez attentivement l'agenda des G7 et G8, les questions sociales internationales ne sont jamais objet de discussion. Je vous parlais du Conseil de sécurité tout à l'heure, c'est la même chose. Dans les grandes conférences internationales, dès qu'il est question de sujets sociaux, on a tendance à glisser vers l'idée de forum social, c'est-à-dire laissons les ONG en débattre, puis nous après on verra ce qu'on peut faire. L'aide publique au développement ne cesse de reculer, alors que il avait été question un temps que 1% de chaque PIB serait consacré à l'aide publique au développement. En France, pays censé être champion de la cause du développement, on en est à moins de 0,35%, c'est-à-dire on commence même à passer en dessous de la moyenne mondiale.
Alors, on reviendra avec vous, Bertrand Badi, sur les dangers de la situation et 2 milliards de pauvres dans le monde, tout cela n'est pas sans conséquences. Michel Terechi, il y a un débat en France sur les intellectuels à qui il est reproché ces derniers temps de ne pas avoir été très présent, de ne pas s'être fait suffisamment entendre. Qu'est-ce que vous répondez ?
Tout dépend de quel intellectuel on parle. S'il est question de ceux qui occupent effectivement les médias et qui sont invités sur tous les plateaux pour parler des derniers livres qu'ils ont faits, en tout cas, il est certain qu'ils sont totalement indifférents, en quelque sorte, à ces grandes questions absolument fondamentales qui nous préoccupent. Il y a d'autres gens qui travaillent sur ces questions et qui, évidemment, sont beaucoup moins entendus. Il y a des livres qui se font, des travaux qui sont menés, etc. Mais alors, cette question de la visibilité médiatique, je pense, pose la question de savoir pourquoi est-ce que ces questions ne font pas l'objet, d'une certaine manière, d'une publicité médiatique à la hauteur des enjeux qui sont en question. Et je crois qu'il y a, ce que d'ailleurs me disait un grand journaliste il y a peu de temps, qu'en réalité, il y a un climat de peur qui, en réalité, inhibe la capacité de réflexion critique. Et puis l'autre chose, c'est le fait d'exercer une réflexion critique sur nos propres politiques, serait mettre en cause, en quelque sorte, l'unanimisme, si je puis dire, qui doit régner dans la société, et les médias, d'une certaine manière, assez étrangement, et je dois dire, je suis assez étonné, participent de cet unanimisme et sont extrêmement frileux, c'est peu dire, en effet, à l'égard de toute réflexion critique qui remettrait en cause nos propres politiques dans ces affaires. Donc c'est, oui, enfin, les intellectuels dont on parle ne sont pas ceux qui traitent de ces questions fondamentales, et ceux qui traitent de ces questions fondamentales n'ont pas véritablement accès à une visibilité médiatique pour les raisons que je viens de dire, je crois.
Bertrand Badi.
Oui, et pardon de le dire, mais je crois qu'on touche là un point très important du sujet. La souffrance est rarement spectaculaire. Quand je dis 6 millions de personnes qui meurent de faim chaque année, quelqu'un qui est dans l'agonie de la faim, c'est pas très spectaculaire. Un bombardement, c'est beaucoup plus spectaculaire. Un attentat, c'est beaucoup plus spectaculaire. Un grand sommet diplomatique avec ce balai de voitures noires officielles et ces grands banquets, c'est beaucoup plus spectaculaire. Donc, effectivement, la souffrance a contre elle soit une absence totale de visibilité, soit la banalité de son image. Ah bah oui, c'est regrettable, mais ces gens ont faim, et qu'est-ce que l'on peut faire ? Voilà, on ne se rend pas compte que c'est éminemment politique, qu'il y a un choix politique qui revient à décider de condamner à mourir de faim un certain nombre de personnes. Je vais vous donner des exemples. Premier exemple, savez-vous que le coût total des transferts pour une année dans le football, c'est 10 milliards de dollars, c'est-à-dire exactement ce qu'il faudrait pour empêcher 6 millions d'individus de mourir de faim. Alors évidemment, c'est pas si simple, parce que c'est pas seulement une question d'argent si on meurt de faim, c'est aussi une question d'éducation, de régime politique, de désastre économique, environnemental, etc. Mais enfin, tout de même, l'emploi de l'argent, c'est quelque chose qui relève d'un choix, et d'un choix libre. Donc, véritablement, il y a une possibilité d'agir, hein. De même qu'il est possible de mettre fin à ces vagues de dysenterie qui tuent 2 millions d'enfants par an, et on pourrait ainsi continuer l'énumération. Nous sommes dans un monde où on semble ignorer un peu ce qu'est un choix politique. Un choix politique, ça consiste à établir des priorités et surtout à établir des visibilités. C'est-à-dire sortir des questions de l'anonymat. On ne parle du Sud que dans deux situations. Soit parce qu'il y a une guerre tragique et à ce moment-là, on filmera, photographiera le noir par terre sous forme de cadavre avec des mouches autour de lui, ce qu'on ne ferait pas pour un Européen, n'est-ce pas ? On flouterait immédiatement son image. Ou alors, l'autre versant du Sud, c'est les sables blancs, c'est magnifiques plages et ces cocotiers. Mais on ne voit pas qu'entre les drames de l'actualité politique et la douceur de ces plages au sable blanc, il y a une réalité sociale qui est terriblement épaisse et qui est en train peu à peu de ronger notre monde. Alors, cessons un peu cette politique spectacle et essayons d'entrer dans une connaissance intellectuelle des mécanismes qui désorganisent ces sociétés et dont nous sommes responsables. Vous savez, la faim dans le monde, principal responsable, c'est la surconsommation alimentaire au Nord. Hein. Mangez un peu moins de viande et vous aiderez ainsi à réguler l'alimentation au Sud.
Michel Tereschenko, ce que disait Bertrand Badi précédemment, une nécessité probablement aujourd'hui d'écrire une autre histoire des relations internationales, celle d'un nécessaire traitement social des conflits contemporains, regarder le monde et réagir à ses pathologies en parlant non plus éternellement de la puissance, mais en sachant regarder la souffrance en face, c'est de cela dont il est question.
Oui, je crois que ce que dit Bertrand Badi montre que, si vous voulez, les questions de justice ne peuvent plus être traitées simplement au niveau des États-nations comme étant des questions qui concernent les citoyens d'un État, que c'est devenu un problème commun, le problème d'une communauté mondiale où les inégalités sont tellement, si vous voulez, extrêmes, qu'elles sont effectivement, manifestement, visiblement injustes et en un certain sens inacceptables. Les problèmes de justice ne peuvent plus se régler simplement au niveau effectivement strictement interne. Et on le voit très bien, c'est la question qui est posée par les migrations. C'est-à-dire, enfin pour le dire très brièvement, mais je pense quand même, enfin pour moi, que c'est une question tout à fait fondamentale. C'est-à-dire, si vous naissez français et que vous bénéficiez de la nationalité française, de la citoyenneté française, vous avez tous les droits. Mais si vous naissez, je ne sais pas, sous les bombes en Syrie aujourd'hui et que vous voulez échapper à ces fléaux, eh bien vous n'avez aucun de ces droits. Et qu'est-ce qui fait que dans un cas vous avez ces droits et qu'est-ce qui fait que dans l'autre cas vous n'avez aucun de ces droits ? Quel mérite avez-vous pour bénéficier de tout ou quel démérite pour être privé de tout ? En réalité, vous n'avez ni mérite ni démérite. Donc il y a quelque chose, si vous voulez, de profondément injuste entre ces écarts, si vous voulez, liés bien évidemment à la citoyenneté, aux États, à l'appartenance à des États, etc., qui devient en quelque sorte insupportable. Bon, et nous le voyons bien aujourd'hui, en effet, dans ces phénomènes migratoires. Il y a une exigence, un besoin profond de justice globale, de justice humaine, qui ne peut se régler en effet qu'à un niveau qui n'est plus celui simplement national et de la citoyenneté, même si c'est aujourd'hui encore dans ces catégories que l'on réfléchit, avec toutes les positions controversées auxquelles on assiste aujourd'hui, et même certaines montées aux extrêmes, etc., qui sont, je crois, déplorables, profondément déplorables, oui.
Justice, injustice, Bertrand Badi, il y va de l'organisation de nos sociétés, finalement. Alors, je voudrais que les risques de ce qu'on connaît aujourd'hui, vous dites que plus de 2 milliards de pauvres pèsent dangereusement et moralement sur notre monde. Quels sont les risques ?
Eh bien, je crois que nous sommes là face au scénario le plus fort d'insécurité qui vient menacer nos 50, 100 prochaines années. Pourquoi ? Parce qu'il y a une transformation profonde de la pauvreté mondiale. La pauvreté mondiale, elle était autrefois inconsciente de son état. C'est-à-dire un pauvre dans la société africaine traditionnelle des années 50, c'était celui qui mourait en silence dans sa case, dans un village, sans connaître du monde autre chose que ses voisins directs et immédiats et peut-être de temps en temps un obscur fonctionnaire qui passait quelques heures par chez lui. Aujourd'hui, le pauvre voit le monde. D'abord, il le voit parce que la pauvreté est de plus en plus urbanisée. Quand on est en ville, on voit les quartiers riches, ils sont sous vos yeux. Et puis aussi parce que la révolution des communications fait que même le plus pauvre a accès à l'image aujourd'hui.
Vous allez dans n'importe quel bidonville et vous verrez que ce qui est le plus visible, ce sont les antennes rafistolées de télévision. Donc les sons, les idées, les paroles, les images circulent. Et du coup, c'est ce que l'on évoquait brièvement tout à l'heure, les imaginaires changent. L'imaginaire du pauvre était un imaginaire très limité dans son horizon autrefois. L'imaginaire du pauvre, aujourd'hui, il est à l'échelle du monde. Et cela veut dire que ses espoirs sont à l'échelle du monde, d'où le phénomène migratoire, qui d'ailleurs ne se développe pas de manière exponentielle, mais ne cesse effectivement de se banaliser malgré les répressions, malgré les risques, malgré les coûts. D'ailleurs, coûts, vous pouvez écrire ça de toutes les manières. Mais aussi mondialisation de la colère. Et c'est là peut-être qu'on touche à ce qui est décrété être l'actualité. C'est-à-dire que l'imaginaire de la colère ne se limite plus, ou plutôt n'est plus retenu par une sorte de sentiment de fatalité qui était l'ordinaire de la pensée du pauvre autrefois. La colère, c'est ce qui résulte de la proximité, de la découverte ostentatoire des inégalités. Et cette colère qui se mondialise, elle cible évidemment ceux qui sont perçus comme étant les plus riches et les plus responsables de cet ordre d'inégalité, c'est-à-dire ce que l'on a l'habitude d'appeler les Occidentaux. À tort ou à raison, le problème est autre, mais de plus en plus, l'Occident est ciblé comme étant, d'une part, l'ordre de domination du monde, ceux qui dominent le monde, et ceux qui, du coup, sont responsables de ce qui se passe. Et ne nous étonnons pas que l'énonciation de cette colère transite par des formules culturelles et identitaires qui s'opposent fondamentalement à l'Occident. Et on ne s'étonnera pas qu'effectivement, certaines formes revivalistes de l'islam viennent accuser nommément l'Occident, c'est-à-dire l'infidèle, d'être responsable de tout ce qui se passe. Ce qui veut dire que cette nouvelle violence internationale, qui est issue en grande partie de cette colère, devient non plus une violence politique, étatique, mais une violence sociale internationale. Et cette violence sociale internationale, elle-même n'a pas de frontières. Elle n'est pas parquée dans l'affrontement d'un État contre un autre État. Elle se mondialise et c'est très exactement l'actualité que je désignais tout à l'heure. Mais je ne veux pas dire que pour autant on est dans des logiques de causalité directe et exclusive. Il y a une médiation qu'il ne faut pas négliger. C'est l'échec des États du Sud à prendre en charge ces questions. Et il y a bien des raisons qui expliquent cet échec. Mais face à l'écroulement de ces États du Sud, évidemment, la mobilisation trouve ses relais ailleurs. Et lorsque on est dans un pays qui n'a plus d'État, on va se réfugier dans des structures identitaires, dans des communautés religieuses qui elles-mêmes vont alimenter cette mobilisation à travers la dénonciation de toutes ces formes d'inégalité. Alors, si on répond à cela par la canonnière, on va amplifier le phénomène, puisqu'on dit « Ah ben en plus ils nous attaquent, en plus ils nous tirent dessus. Ils sont responsables de nos malheurs, en plus ils nous tirent dessus. » Donc, c'est ce que j'appelle, moi, le traitement social de ces formes nouvelles de conflictualité et qui n'ont rien à voir avec l'intervention militaire banalisée depuis 1989.
Michel Terechenko, très rapidement.
Oui, mais ça, je ne peux que souscrire à cette thèse que le traitement militaire est en réalité à la fois ce qu'il y a de plus facile, parfois de plus imbécile. Je n'hésite pas à employer ce terme. Mais les sociétés ne sont pas des échiquiers, si vous voulez, les individus, des pions que l'on peut déplacer. Oui. Quand on voit aujourd'hui comment on essaye de résoudre le problème, je sais pas, de la Syrie, c'est un peu comme si, effectivement, qu'il me semble un joueur d'échecs et que les sociétés est simplement un échiquier. Ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut vraiment penser les problèmes et la résolution des problèmes, les solutions de façon fondamentalement différente.
Merci, c'est la fin de Géopolitique. Michel Terechenko, vous étiez en duplex avec nous depuis les studios de nos confrères de Radio France à Aix-en-Provence. Vous êtes universitaire, philosophe et auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, L'ère des ténèbres, paru aux éditions du Bordelot. Et Bertrand Badi, merci aussi à vous, politologue, spécialiste des relations internationales et professeur des universités à Sciences Po Paris et auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier, Un monde de souffrance, ambivalence de la mondialisation mondialisation paru aux éditions Salvador. Je signale à propos de l'ONU l'édition de l'hebdomadaire Le 1 du 21 octobre dernier, les Nations Unies comme lieu indispensable et insuffisant de la diplomatie. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique, le débat, émission Cinéma et France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. Demain, Géopolitique sera consacrée à la Birmanie, où se tiennent d'importantes élections législatives le 8 novembre. À demain.